La patte de chat, Chrystia Silf, partie 2.
La chatmille en spectatrice de loge appréciait mon théâtre. De toute évidence, elle connaissait la présente pièce par cœur et y accordait surtout un intérêt de contrôle, dans le perfide dessein de me surprendre à déranger l'ordre coutumier de mes tirades ou rompre l'enchaînement bien réglé de mes jeux de scène. Je respectais donc le crescendo de mon monologue jusqu'à l'apothéose de mes gesticulations qui m'abattirent en point d'orgue prolongé sur les ressorts grinçants du plus vieux, du plus creux de mes fauteuils, celui-là même nommé « fauteuil des lassitudes ». Je ne bougeais plus. Tout était dit, tout était joué. C'était fini. « Enfin !» dit la chatmie. « Ce n'est pas trop tôt. Vous me surprendrez toujours par l'étalage de vos tergiversations. Vous y perdez vraiment un temps précieux. N'aviez-vous point compris, tout comme moi, que c'était jour d'histoire racontée ? L'odeur du temps, la teinte pâlie du ciel, l'intention manifestée par les coussins de nos fauteuils, ne vous parlait-elle point de cette évidence ? Allons, cessez de vous ébrouer de la sorte. Je vais vous dire ce que je tiens d'un mien cousin, noble chat de la très ancienne lignée du chemin de ronde au village de Saint-Levant. Mais vous voudrez bien me permettre un certain tour de style. Ce récit est si parfait que je n'en veux rien changer en y introduisant peu ou prou de ma personnalité. Je m'effacerai donc au profit du mien cousin, et vous voudrez bien considérer que c'est lui qui parle, en mes lieux et places, mieux que je ne saurais le faire. » J'acquiesçai et assistai sur le champ à une sorte d'évocation. Chatmi, après une pause, parut changer de physionomie, et là, sous mes yeux, vieillissant et se tassant, le poil sec, le museau soudain tout ensauvagé, devint l'homologue de son parent. Je ne jurerai pas qu'elle n'ait point murmuré une petite prière à grand chat pour être aidée, car il me sembla saisir, au travers de son souffle, les mots de l'invocation majeure, le credo des chats qui dit « En toi, grand chat, nous procédons tous les uns des autres ». Bref, Chatmi opéra une magistrale mutation. Même sa voix, quand elle entama le récit, avec des accents rauques et des feulements de gorge, fut celle d'un vieux matou, solitaire et philosophe. À Saint-Levant, nous autres de la pérenne confrérie, qui portons dévotion et rendons tous nos comptes à grand chat, nous considérons comme fief d'élection le territoire du chemin de ronde. Obligation nous est faite à tous, que nous habitions loin ou près, d'y passer au moins une fois chaque jour, afin d'assurer la continuité de notre chaîne magique. L'un d'entre nous, désigné par grand chat lors des cérémonies de probation, est nommé à vie maître veilleur de ce lieu. Cela veut dire qu'il s'engage à y maintenir, avec rigueur, une surveillance dont il doit rendre compte régulièrement à grand chat. J'étais donc, depuis ma jeunesse, ce maître veilleur. Oui, ma charge me donnait beaucoup de soucis. Elle me privait tout à fait du libre bonheur qui est nôtre. Mais j'en respectais hautement les astreintes, heureux de plier mon tempérament aventureux aux rigueurs de cette mystique. Mon goût inné de la solitude, mon sens de l'observation, furent de précieux adjuvants. Grand chat ne s'était point trompé dans son choix. Tôt dans l'âge, j'en vins à aimer mon ascèse. Je méprisais la vie facile. Ce fut heureux car, comme je l'ai dit, un maître veilleur ne peut s'abandonner aux douceurs tribales. Il vit seul, il dort seul. Les sommeils de groupe qui tant sont doux, museau et pattes fraternellement confondus, ne sont pas pour lui. Pas plus que les changements brusques de résidence, si chers à nos sens lorsque la lune pleine nous appelle ailleurs. Encore moins les folles passions qui nous font musiquer à tort et à travers des saisons durant devant les dames. Non, non, tout cela n'était point mon lot. Je veillais, je demeurais, je maintenais. J'assurais la continuité des prérogatives fluidiques du clan. J'étais le rapporteur de tous par devant la justice de grand chat. Et sur spécial décret de celui-ci, béni soit-il, j'étais le secret témoin des actes des hommes. Il est faux de la nuance, de la perspicacité, de l'expérience, et de plus, une sorte de don spécial pour les deviner. Car les actes des hommes ne reflètent pas forcément leurs intentions. Plutôt pas. Celles-ci sont le plus souvent cachées, et parfois même comme ignorées, tant il apparaît que les humains ont une étrange répugnance à descendre voir dans leur profondeur ce qui s'y passe. Il me faut vous dire, pour la clarté de mon récit, que ce chemin de ronde à Saint-Levant forme dans l'arcane majeur de notre science cachée une frontière entre l'évolution chat et l'évolution homme. À cet endroit, la barrière est mince. Il y a possibilité d'interpénétration d'un camp dans l'autre. Des échanges se font, profitables aux deux parties.
Les hommes, par exemple, tirent de notre contact une meilleure connaissance de la circulation des fluides. Nous leur rendons souvent le service d'assainir leurs ambiances psychiques. Ça leur donne le teint frais et nous fait le poil lisse. Mais de plus étranges mutations se produisent. Tous ceux des nôtres qui naissent là sont, vous le concevez aisément, d'une caste choisie. Ils possèdent par hérédité quelque chose de plus que la majeure partie d'entre nous. Ils ont très exactement l'apanage d'une dotation particulière. C'est la part supplémentaire. C'est le germe propre à certaines âmes qui leur permettra de croître au-delà des limites coutumières sous l'action du rayonnement humain, soleil de notre vocation. Ainsi, une radicelle glorieuse poussera en dévorant comme un terreau de base notre petite âme animale, jusqu'à ce que cette plante rarissime devienne elle-même l'embryon plus rarissime encore d'une future âme humaine. En ce cas, l'élu sera libéré des recommencements animaux au profit de son entrée dans le maillon humain. C'est là, je le concède, une alchimie peu connue. Peu de réussite, car peu de tentatives. Nous restons libres de développer ou non cette capacité. En fait, la plupart d'entre nous la laissent en friche, car c'est un don redoutable et générateur d'épreuves. Vous voyez qu'en un tel lieu, mon emploi de maître veilleur n'était pas une sinécure. À suivre.